un homme tout à fait charmant. Alors, ses propos sont d'un cynisme et d'une immoralité vraiment hallucinante. J'ai bien savouré le moment où le journaliste François Ruffin a proposé à ce conseiller une quatrième alternative à tous les plans ultralibéraux, censés faire plier les Français au plan des financiers. Le cas où le peuple se rebellerait et reprendrait le pouvoir, on a senti que cette perspective déstabilisait complètement le bonhomme. Alors moi, j'ai envie d'adresser un message à tous les banquiers, financiers et autres actionnaires. Méfiez-vous des petites ménagères de plus ou moins de 50 ans. Quand elles se mettront vraiment en colère parce qu'elles n'en peuvent plus que leurs droits et ceux de leur famille soient bafoués, ce jour-là, ça va chauffer. C'était Marie-Christine de Lille, ménagère de moins de 50 ans, plus qu'indignée.
Ah là là, quelle bande de rabat-joie. Sur la base, si j'y suis, vous auriez pu au moins nous laisser rêver une journée. Nous laisser rêver que François Hollande, il allait nous sortir de là, que vraiment, c'était possible, qu'on pouvait y croire. Et au lieu de ça, vous nous faites une émission pour nous dire qu'on est dans la merde, toujours dans la merde, et qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Vous faites chier, hein, vous auriez pu nous laisser rêver au moins aujourd'hui, au moins cette journée-là. Ben non, même pas. On n'a même pas droit à une journée de rêve. Ouf ! Merci, monsieur Filoche. Moi, j'étais à deux doigts de me pendre en entendant le chief économiste, là, nous annoncer notre avenir. Entre parenthèses, c'est gonflé de la part d'un gars en CDI surpayé d'expliquer que le CDI, c'est dépassé, place à la flexibilité. Bon. Mais lui, le spécialiste, il a étudié le bilan du libéralisme. Malgré des chômeurs et des précaires toujours plus nombreux, même pas foutu de conserver sa valeur de capital. Et oui, le CAC 40 était autour de 6000 points dans les années 90, si je ne me trompe pas. Il est à 3000 aujourd'hui. Alors, dire au vu de ça que les marchés gagnent, ça me fait rire. C'était Christine du Limousin.
François Hollande a déclaré ce soir « La Grèce doit tenir ses engagements ». Pour les législatives, nous sommes prévenus. Il y a la gauche du oui, oui aux traités européens, oui à l'étau de l'austérité pour assurer les créanciers, oui à l'impasse de la rigueur pour calmer la colère des marchés, et puis il y a la gauche du non. Non aux traités européens, non au ressort de la spéculation contre les dettes publiques, non aux diktats des prédateurs financiers. Peut-on encore parler d'un électorat de gauche quand on s'apprête à voter pour le oui ? Régis de Nîmes.
Salut les AMG, c'est Émilie de Haute-Loire. Un petit message pour les AMG du Puy-en-Velay et des environs. Notre deuxième repère du mois aura lieu ce soir, mercredi 16 mai, de 20h à 22h, au café culturel Le Goût du Monde, rue Saint-Jacques, au Puy-en-Velay. Sur le thème « Les élections présidentielles et après ». Puis, une petite information, nous organisons un déplacement sur le plateau des Glières pour le week-end du 26 et 27 mai, à l'occasion du rassemblement du mouvement citoyen résistant d'hier et d'aujourd'hui, et du deuxième repère des repères avec Daniel Mermet. Donc, ceux qui voudraient nous rejoindre depuis la Haute-Loire pour se rendre sur le plateau des Glières, vous pouvez nous contacter à amg-haute-loire@hotmail.fr ou bien au 04 71 02 08 38. À bientôt.
Voilà, ça s'organise pour se retrouver les 26 et 27 sur le plateau des Glières en Haute-Savoie avec le CRHA, citoyen résistant d'hier et d'aujourd'hui, vous connaissez l'histoire. Le samedi donc, toute la journée, à Torrent-Glières, des débats. Et le soir, effectivement, ce sera le repère des repères. On va tous se retrouver autour d'un invité ou deux. On bavardera, discutera, écoutera, échangera le monde au jeu lundi. Non pas aujourd'hui, mais lundi 14 mai, c'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, le premier procès pour tromperie aggravée des laboratoires Servier et de leur fondateur, Jacques Servier, 90 ans, poursuivi pour la commercialisation entre 1976 et 2009 du Mediator, qui aurait provoqué la mort de 500 à 2000 personnes. C'est la plus grave crise sanitaire en France depuis l'affaire du sang contaminé dans les années 1980, l'affaire Mediator. On s'y est intéressé dans Là-bas si j'y suis. Mais pas seulement le Mediator, parce que c'est une horreur totale, bien évidemment. On s'est dit, bon, ben voilà, on va juger, on va condamner, peut-être. Et voilà, quoi, on va couper la branche morte. Il se pourrait qu'il n'y ait pas que le Mediator. Il se pourrait que ce procès sur ce scandale ne soit pas le seul, que soit intéressant de se pencher sur l'industrie pharmaceutique et de façon générale, sachant que le secteur l'industrie pharmaceutique, c'est le secteur le plus rentable. Médecins, laboratoires, politiques, médias, il y a plus qu'un simple partenariat entre le public et l'industrie. Et tout ça est-il compatible avec un battement de cœur? C'est la question que nous nous posons. Il y aura des éléments de réponse d'ici à 16h dans la base, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut les AMG, salut Daniel. Une petite info, lorsque vous vous mettez sur le site internet de France Inter, vous voyez apparaître tout en haut de votre écran une publicité pour une société qui s'appelle Carmignac Gestion. Alors Carmignac Gestion, il faut savoir ce que c'est. C'est une société de gestion de patrimoine et qui propose principalement des gestions offensives et des spéculations sur les monnaies, sur les dettes souveraines, tout ce système qu'on essaie un petit peu de mettre à mal et de dénoncer. Alors je trouve ça assez croustillant, c'est très croustillant que France Inter finalement participe à ce genre de clownerie. Ce qui me fait dire que M. Lordon, M. Maris, tous les gens du monde diplo, bah, ils ont encore du boulot, quoi. Ils ont encore beaucoup de travail. Et je doute en plus que les auditeurs de France Inter aillent placer leurs économies chez Carmignac Gestion. Et je suggère aussi, soyons constructifs, qu'on mette plutôt des bandeaux publicitaires pour des sociétés et des banques coopératives, avec des projets coopératifs et des projets un petit peu responsables. Voilà, c'était une suggestion, c'était une petite colère très contenue de Frédéric à Amiens.
Salut Daniel, j'ai écouté la fin du reportage hier sur les routiers de l'Est. Les jeunes journalistes ont fait du bon boulot, mais un peu court à mon goût, car il y avait encore beaucoup à dire, surtout sur la société Norbert d'Entresangles. En tout cas, j'espère que ça fera peut-être bouger un peu plus les syndicats, surtout en haut. Car il y a déjà eu une émission sur France 2 et des reportages sur France Route, mais à part la base qui essaye de se défendre comme il peut, on ne sent pas de soutien des directions syndicales, ni des dirigeants politiques. On n'aura peut-être pas eu le plombier polonais, mais on aura eu des routiers, et ils nous font bien des misères. Bien sûr, on ne leur en veut pas personnellement, mais on serait à leur place, on ferait la même chose. Mais c'est surtout le système qu'il faut changer à tout prix, si on ne veut pas disparaître.
Voici que pour son investiture, notre nouveau président a choisi de célébrer Marie Curie. Le symbole est fort, une femme française, immigrée de première génération, la seule de l'histoire des Nobel à avoir eu deux fois dans sa vie cette distinction et dans deux domaines distincts. On en parle trop peu à mon goût. Il y aurait tant de choses à dire sur l'accès des femmes aux disciplines scientifiques, sur leur capacité à se distinguer, sur l'esprit d'entreprise qui a caractérisé celle-là et qui manque à tant d'autres têtes brillantes issues de polytechniques ou centrales et qui ne sont plus que des techniciens gestionnaires de grandes entreprises. Mais bon, nos médias ne parlent que de la controverse au sujet de Jules Ferry, symbole complexe, avec lequel on célèbre l'éducation, mais pas le colonialisme, car le colonialisme, c'est mal, c'est acquis maintenant, et nous sommes repentants. Est-ce qu'avec Marie, on célèbre l'intelligence et la persévérance, mais pas le nucléaire, face sombre s'il en est de ses découvertes? Je ne crois pas. Car le nucléaire, en France, ça n'est pas mal et nous sommes assez loin de nous repentir de notre exception française à 75% de production d'électricité par l'atome et de nos exportations de MOX jusque dans le cœur de Fukushima. Je reste saisie par le fait que le symbole Curie, riche et complexe, génère aussi peu de discussions et de controverses.
Le week-end prochain, on sera sur le plateau des Glières pour être avec les résistants d'hier et d'aujourd'hui. Et donc, de fait, le repère de Tourette n'aura pas lieu le dernier vendredi du mois, mais aura lieu ce vendredi, le 18. Ça tombe bien, c'est ma fête en plus. Donc, on y parlera notamment des élections législatives, parce qu'il y a un candidat, voire même plusieurs candidats aux législatives, qui seront présents au repère. Alors, c'est assez inédit. En tant que personne, il n'y a pas de raison qu'on leur reproche d'être là. Mais bon, voilà, il va y avoir débat, il va y avoir discussion. Ça sera intéressant, on parlera de politique. Bon, Daniel, on travaille dur dans les champs, mais on se voit le week-end prochain. Ciao, vive, portez-vous bien.
Le but de l'industrie, c'est pas du tout qu'il n'y ait plus de malades. C'est qu'il y en ait de plus en plus. Le jour où il n'y aura plus de malades du tout, il n'y a plus d'industrie.
On attend que les médecins cardiologues sortent de l'amphithéâtre. Vous êtes cardiologue ?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est dit dans ce par rapport au...
Je vais vous dire.
On va peut-être demander au monsieur. Docteur, vous êtes médecin ? Vous voulez pas parler ? D'accord.
Forcément, les médecins ne sont pas neutres. Et bon, un jour, ça va être tel laboratoire qui va nous proposer. Un autre jour, ce sera un autre laboratoire. Nous, ça ne pose aucun problème. Franchement, aucun problème.
Toute la politique de l'industrie pharmaceutique est celle de l'industrie en général depuis 15 ans. Celle du capitalisme financier qui doit rapporter immédiatement et à court terme. Malheureusement, le médicament, c'est exactement l'inverse.
Pour l'instant, on est dans une surenchère médiatique, je pense.
En même temps, sur le médiateur, il y a eu des cas de décès avérés.
Vous
c'est
en connaissez
ça.
Vous, ah oui, personnellement, puisque... vous connaissez quelqu'un qui a pris les médiateurs et qui est décédé?
Hein? Vous en connaissez, vous? Ah bah alors? Bah vous en avez pas vu? Vous connaissez des gens qui sont morts de ça? Bah alors? C'est là-bas que j'y suis. Daniel Mermet, Pascal Pascariello, Doré la pilule.
Voilà, on arrive au Palais des Congrès, à Paris. Il suffit de suivre les personnes qui ont des badges. Parce qu'aujourd'hui, c'est les 21e journées européennes de la Société française de cardiologie du 12 au 15 janvier, organisée par la Société française de cardiologie, en partenariat avec Glaxo, avec Bayer, avec de nombreux laboratoires, avec Sanofi. Oh là là, mais c'est du foie gras. Vous avez la bouche pleine, vous voulez pas me répondre.
Super.
Champagne et foie gras.
Il y a pire situation.
La pire situation. Alors là, on arrive à l'étage des stands des laboratoires. Donc on a Sanofi, on a le stand de Bayer, donc Glaxo, et c'est l'heure du déjeuner. Alors on va profiter de cette pause déjeuner pour aller poser quelques questions aux cardiologues, aux médecins, et on va aller au stand. Mais il y a le stand Servier. Bonjour, excusez-moi, je peux vous poser des questions ou pas ?
Pas moi, non.
Excusez-moi. Est-ce que je peux vous interrompre pour vous poser une ou deux questions ? Vous êtes médecin ? Vous travaillez pour les laboratoires ?
Je ne vais pas répondre.
On ne répondra pas.
Non, j'enregistre la non-réponse. Ah bah partez pas. Ils sont partis. Docteur, je peux vous poser une ou deux questions ? On ne peut pas parler quand on est sur le stand de Servier, on ne parle pas ? Vous croyez que c'est dû à ça ou pas ? Parce que si on fait trois pas à l'extérieur du stand de Servier, vous croyez qu'on arrivera à retrouver la parole ?
J'ai une réunion, là.
D'accord. Bonjour, excusez-moi, oui. Pascal Pascariello, je travaille pour France Inter.
Oui.
Monsieur Verbet.
Oui, non, mais attendez,
docteur.
Vous n'avez pas...
Non, mais comme tout le monde a son petit badge...
Oui, non, mais moi, je...
Bon. Est-ce que c'est possible, non, de faire une interview? Vous travaillez pour les laboratoires Servier?
Pas de nous, en tout cas.
Alors pourquoi Servier a ouvert un stand si on ne peut pas venir se renseigner?
No comment.
Ils sont collants quand même. Ils sont collants, ces reporters de là-bas, si j'y suis. C'est quand même quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle veut savoir? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? De l'industrie pharmaceutique la plus rentable au monde, de toutes les industries, la plus importante de toutes les industries. Vous savez combien elle mesure, Pascal Pascariello, par rapport à l'industrie pharmaceutique? Non, mais vous rigolez. Et ce qui l'intéresse aussi quand même, c'est ce mot de partenariat. Voilà. Partenariat entre cette journée de cardiologie, c'est important la cardiologie quand même, hein, ça regarde nos petits cœurs, ça regarde quand même notre petite santé, ça regarde nos petites vies aux uns et aux autres, la nôtre et celle des nôtres, en partenariat avec l'industrie la plus rentable et la plus importante du monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas comme une sorte de conflit entre ça, entre les battements d'un cœur et l'industrie la plus rentable et la plus importante du monde? S'il y a un endroit, s'il y a un lieu où le capitalisme, disons financier d'aujourd'hui, se heurte de plein fouet, de plein front avec la vie humaine, avec notre humanité, c'est là, bien sûr. C'est là, entre le battement du cœur, le battement de nos cœurs, le nôtre, et ceux des nôtres, et les exigences du système de cette industrie la plus rentable et la plus importante du monde. Ces deux systèmes qui ne peuvent pas aller ensemble encore très longtemps. Le battement d'un cœur et l'exigence de ce système. C'est incompatible, c'est incompatible. Le médiateur, l'affaire du médiateur avec ses 500 morts, 1000 morts, on ne sait pas, et cette petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine en est un signal. On comprendra peut-être, d'ici à tout à l'heure, ce qu'il faut dire. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, avec Pascal Pascariello, Dorer la pilule.
Qu'il était bon, l'étendue du mes cerveaux où l'on ne savait rien de ce mot aspirine. Déjà éternué à tout va, il avait des négros comme ça et ça sentait bon l'infusion dans les cuisines. Aujourd'hui on se fait des vaccins, on prend des trucs et des machins, on s'enfile des ustensiles dans les narines. On ne peut plus maintenant être malade comme avant, tout ça à cause des médicaments. J'en ai assez, je n'en peux plus. M'enfiler des trucs dans le nez, dans les oreilles et dans le gosier. Je voudrais bien qu'un jour on cesse de me piquer dans les deux bras et les biceps comme des loups-gars. Je suis gentil, je suis très bon, mais faut pas me prendre pour un crétin. Et si un beau jour je m'énerve, je le dirai carrément zut. Qu'il était bon, qu'il était bon, l'étendue du mes le cerveau. Quand on n'était pas bien portant, on s'adressait à grand-maman qui nous préparait un lavement pour une angine. Aujourd'hui pour un panari, on dévalise des pharmacies où la moitié de nos économies se débine. On ne peut plus maintenant être malade comme avant, tout ça à cause des médicaments.
3500 hospitalisations, 500 patients décédés de graves atteintes cardiaques,
LCI,
consécutives à la prise de Mediator. Des chiffres de la CNAM confirmés ce matin par l'Agence des produits de santé.
16 novembre 2010.
Depuis sa commercialisation en 1976 jusqu'à son interdiction l'an dernier, ce médicament a été prescrit à 2 millions de personnes en France. Destiné à l'origine aux diabétiques, ces pilules ont été prescrites comme coupe-faim à des personnes en surcharge pondérale qui voulaient maigrir, majoritairement des femmes. Plus de 30 ans après la mise sur le marché du Mediator, les autorités sanitaires reconnaissent que le système de pharmacovigilance n'a pas bien fonctionné et recommandent à toutes les personnes qui ont pris ce médicament pendant plus de 3 mois de consulter leur médecin traitant.
Bonjour, je suis un peu embarrassée.
Dominique, c'est tout.
Quoi ? C'est bonjour, tout. Vous êtes docteur ?
Lui est docteur, oui.
Journée européenne de la Société française de cardiologie.
Vous êtes embarrassée de quoi ?
Du sinon,
Paris,
qui plane dès que je demande à quelqu'un est-ce que vous pouvez me parler, tout le monde dit non, on refuse.
De quoi ?
13 janvier 2011.
De tout, de ce stand, de Servier ?
Non, mais je crois qu'on en fait aussi tout un plat. Je peux vous dire,
Globalement, les statistiques, malheureusement, c'est mathématique, ces histoires. Hein. C'est un cas pour mille. Avec un médicament, ça fait 10, 15, 20 ans qu'il est sur le marché. On apprend comme vous, hein, on est comme vous. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas trop parler parce que on est gêné. On aurait peut-être dû s'en apercevoir avant, mais on se dit d'un autre côté... Ça donne quoi? Ça donne des petites valvulopathies essentiellement, des petits souffles, mais tout le monde a des petits souffles.
Il y a eu des cas de décès quand même.
Ah oui, non, oui, comme je vous dis, il va y avoir. Enfin, il y a eu des cas de décès, effectivement, ce qui est énorme. Alors, je ne défends pas le laboratoire du tout, hein, mais je dis que, effectivement, c'est un médicament qu'on aurait dû retirer de la vente, comme les Espagnols, depuis 2 ans, quand on savait pratiquement que ce médicament, il donnait des problèmes. Ce que je regrette surtout, c'est justement qu'il n'y ait pas eu cette transparence. C'est tout. Moi, je veux bien qu'on tape sur les médicaments, je veux bien que... Mais ce seront les gens qui râlent le plus aujourd'hui, qui reviendront, comme des petits chiens-chiens, pour demander des médicaments parce qu'ils ont une petite migraine, parce qu'ils ont un peu mal, parce qu'ils veulent... Bon, je veux dire, on ne défend pas le laboratoire, hein. Mais je dis une chose, il faut faire attention. Les médicaments, c'est ce qui permet de prolonger la vie. Les médecins, sans les médicaments, on serait rien du tout. On serait des curés, des prêtres, donc voilà. Forcément, les médecins ne sont pas neutres. Et bon, un jour, ça va être... C'est le laboratoire qui va nous proposer, un autre jour sera un autre laboratoire. Nous, ça ne pose aucun problème, franchement aucun problème. Moi, j'ai été convié par un laboratoire.
C'est lequel ?
Ah non, ça, je préfère garder vraiment l'anonymat, mais je peux vous dire que je suis convié par différents laboratoires. C'est exactement comme les orateurs qui présentent leurs diapositives, ils commencent par dire les conflits d'intérêts. Quand vous voyez leurs plaques, ils ont conflits d'intérêts avec tous les laboratoires. C'est normal, ce sont... sans médicaments, nous sommes rien. Il faut comprendre que sans les médicaments, nous, on ne peut rien faire.
Voilà, c'est, y a rien de spécial, tout ça c'est normal, on ne peut pas faire autrement. Et puis alors la question, vous voyez, si jamais vous posez des questions sur le contrôle des médicaments, on vous répond par l'existence du médicament. C'est-à-dire que si vous dites, mais ce serait pas bien s'il y avait un peu de contrôle, on vous dit, ah mais vous êtes contre le médicament. Enfin ça, ce genre de raisonnement, on les rencontre un petit peu partout. Pour y voir un petit peu plus clair et pour comprendre un petit peu mieux, voici Roger Langlais, qui est philosophe et qui s'est beaucoup investi dans ces considérations.
Oui, bonjour. À la suite de la sortie du livre « Lobbying et santé, comment certains industriels font pression contre l'intérêt général », simplement, ils ont compris qu'il était aujourd'hui quasi impossible de faire l'histoire de la médecine sans faire l'histoire en même temps du lobbying. Et en particulier des pressions de l'industrie pharmaceutique. Depuis Pasteur, on va dire, il me semble à peu près aberrant de faire l'histoire de la médecine sans prendre en compte les pressions économiques, les orientations, les manipulations qui ont redéfini, réinventé d'une certaine façon la médecine, à la fois au détriment des médecins et des patients. La présence de l'industrie pharmaceutique, on devrait dire même aujourd'hui l'omniprésence de l'industrie pharmaceutique, hein, qui oriente, on le sait, jusqu'à la formation initiale des médecins, ensuite la formation continue, entre guillemets, parce que c'est essentiellement encore des colloques dans des conditions très confortables et qui ne sont pas d'une finalité très, très claire. Hein. Ce qui est une manière surtout, d'ailleurs, pour l'industrie pharmaceutique, même à travers les restaurants, etc., des spectacles payés durant l'année, de maintenir des bonnes relations avec les médecins, et donc de les rendre plus confiants quand on les aborde sur des questions de prescription, sur les vertus des médicaments, etc. Et donc on a véritablement là un enfarinage, appelons ça comme ça, une manière de rouler vraiment les médecins à travers une relation de confiance et en fait de penser à leur place et le plus possible finalement de les empêcher de penser, quoi.
Et justement, alors, si on prend le premier maillon de cette chaîne qui est quand même le médecin.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le médecin, et déjà depuis de nombreuses années, est formé pour devenir un prescripteur de médicaments. C'est-à-dire qu'on a même une médecine aujourd'hui qui fait très peu d'investigations cliniques, hein, les fameux gestes de palpation et autres, et d'interprétation des signaux vraiment du corps. Le médecin ne le fait plus, quasiment plus. Il prescrit du médicament et en fonction du résultat des médicaments, il va varier la prescription ensuite. C'est ce qu'on appelle quasiment un diagnostic médicamenteux. Et ça, c'est tout à fait symptomatique de la réinvention par l'industrie pharmaceutique, de la médecine et de la formation des médecins qui aujourd'hui, dès leurs premières années de formation médicale et ainsi que dans la formation continue, sont préparés à être des distributeurs de médicaments. Dans la formation du médecin, normalement, on devrait inclure le recul critique, savoir exercer un regard critique sur les informations qui proviennent des laboratoires pharmaceutiques et qui passent par la presse, en particulier professionnelle, hein, le quotidien du médecin, entre autres.
Ce journal, justement, le quotidien du médecin, est financé par les laboratoires.
Il est entièrement financé, en fait, sur les subventions des laboratoires tout particulièrement à travers les publicités, les publi-reportages et la revue Prescrire. J'espère que ça va bouger là maintenant, mais la revue Prescrire était qu'à 25 000 abonnés, hein, ce qui est très peu au regard des besoins réels. Et autrement dit, le médecin ne cherchait pas la plupart du temps à avoir une contre-expertise sur les médicaments, une contre-expertise indépendante. Voilà. Mais ce qui ne se rend pas compte, évidemment, c'est les conditions de consensus du coup, qui sont mises en place par les laboratoires et entretenues et qui permettent derrière de maîtriser en fait toute leur information.
Lisez attentivement l'intégralité de cette notice. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez un doute, demandez. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, à vous, pas à quelqu'un d'autre. Vous êtes malade. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Vous êtes prazépam, 10 mg, lactose, cellulose monohydratée, stéarate de magnésium, lithium, amidon de maïs, risperidone, métoprazine plus paroxétine, lacalimilium d'indigotine, silice colloïdal, une prise avant de coucher ou pendant le dîner. Attention, chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché.
Ce matin, je retourne aux journées encore de la cardiologie pour écouter une séance parce qu'à 9h, il y en a une qui est sur le benfluorex, c'est-à-dire le médiator et les valvulopathies, donc les conséquences qu'il entraîne. Et donc, je vais faire comme les médecins ce matin, je vais écouter justement les experts, les fameux experts. Et j'ai rendez-vous avec Philippe Even, qui est un ancien doyen, un pneumologue et qui préside l'Institut Necker. Donc, je l'attends.
Ça va ?
Ça va et vous ?
Qui fait partie, Philippe Even, des médecins et critiques par rapport à ce système, cette proximité entre l'industrie et le poids de l'industrie pharmaceutique sur la santé, sur les médecins, sur les prescripteurs divers et variés, avec une puissance de lobbying qui s'immisce dans tous les moments de la vie de ces médecins, de ces spécialistes de toutes sortes, jusqu'à ce qu'ils ne comprennent plus rien, qu'ils n'arrivent plus à réfléchir du tout. Il faut rappeler que concernant le médiator, il a été retiré du marché en 2004 en Italie, en 2003 en Espagne et seulement en 2009 en France, alors qu'on savait depuis très longtemps, en tout cas l'entreprise Servier savait depuis fort longtemps, depuis des années et des années, les risques que présentait ce médicament. D'autres, actuellement, on le sait aujourd'hui, on est un peu plus vigilant, mais combien de temps le restera-t-on, présente aussi des risques importants pour la santé. Donc on va essayer avec Pascal de s'intéresser à cette journée de cardiologie, accompagnée, et c'est très important, par Philippe Even.
Dans le programme, ce qui est intéressant, c'est que parfois, il y a des symposiums qui portent le nom des laboratoires directement.
Oui.
Donc, il y a des symposiums Sanofi, des déjeuners-débats AstraZeneca.
Oui, oui, tous. Ben non, mais c'est toujours comme ça. Hein. Vous savez, ça coûte cher de louer le Palais des Congrès. Et on voit pas très bien comment les cardiologues, sauf une taxe spéciale annuelle congrès, y parviendraient. Et bon,
de l'industrie pharmaceutique, c'est quoi? C'est, si je ne me trompe pas, 2000 milliards d'euros de capitalisation boursière, c'est ça?
C'est donc une puissance financière que la plupart des Français n'imaginent pas et qui font de cette industrie, avec les banques, les assurances et les grandes compagnies de distribution, les valeurs majeures de la bourse. Quand on est naïf, on a alors la surprise de constater que, bon, le pétrole c'est puissant, mais c'est en dessous, et puis l'électronique c'est très loin derrière, la mécanique, les avions, les voitures, c'est en queue de peloton. Hein. C'est donc une puissance déjà très concentrée, et cesse pas d'ailleurs de se concentrer de plus en plus, entre les mains de fonds d'investissement, avec à sa tête des managers qui sont choisis par les actionnaires pour leur capacité de gagner le maximum d'argent à court terme, c'est-à-dire de rapporter 15% par an, et si possible 20, et même 25, et ça arrive. Autrement dit, toute la politique de l'industrie pharmaceutique est celle de l'industrie en général depuis 15 ans, celle du capitalisme financier qui doit rapporter immédiatement et à court terme. Malheureusement, le médicament, c'est exactement l'inverse. Trouver un nouveau médicament, l'analyser, le développer, le préparer industriellement, l'essayer chez des malades, et obtenir finalement, et pas toujours, l'autorisation de le commercialiser, c'est 15 ans d'efforts ou 12 ans d'efforts. Autrement dit, c'est une politique à long terme. Et il y a là une antinomie totale entre la politique de court terme des financiers et la nécessaire politique de long terme de la découverte de nouveaux médicaments. Et le résultat, eh bien, il n'y a plus de nouveaux médicaments de valeur depuis maintenant, depuis qu'il y a ce capitalisme, depuis 15 ans. Et il m'arrive de dire, en rigolant, le but de l'industrie, c'est pas du tout qu'il n'y ait plus de malades. C'est qu'il y en ait de plus en plus. Le jour où il n'y aura plus de malades du tout, il n'y a plus d'industrie.
Les résultats incriminant le Mediator sont connus le 5 octobre 2009, à en croire le Figaro.
BFM.
Que fait Servier ? Rien. Aucun retrait volontaire du médicament.
16 janvier 2011.
Pire, le laboratoire défend son produit deux semaines plus tard devant l'AFSAPS, l'agence des produits de santé. Servier, en tout cas, a toujours nié avoir eu connaissance de la nocivité du Mediator. La thèse du laboratoire pharmaceutique, comme son attitude, est donc aujourd'hui remise en cause.
On attend que les médecins cardiologues sortent de l'amphithéâtre. Vous êtes cardiologue ?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est dit dans ce, par rapport au... Oui,
je vais vous dire.
On va peut-être demander au monsieur. Docteur, vous êtes médecin ? Oui. Vous voulez pas parler ? D'accord. Vous êtes docteur ?
Oui, non, je suis cardiologue, oui. Henri.
Henri ? Est-ce que vous vous méfiez des laboratoires ou quoi ?
Non, je pense qu'il y a beaucoup de verrous de sécurité. Je pense qu'il y a une recherche qui est, où les laboratoires sont largement impliqués. Je pense que pour l'instant, on est dans une surenchère médiatique, je pense.
En même temps, sur le Mediator, il y a eu des cas de décès avérés.
Vous en
c'est
connaissez
pour ça.
Vous, ah oui, personnellement, puisque... vous connaissez quelqu'un qui a pris du Mediator et qui est décédé? Mais voilà, je pense qu'on n'a pas de chiffres réels, de quantification réelle du problème. Il y a eu sûrement des abus dans l'usage de ce médicament qui n'est pas le fait du laboratoire, qui est le fait peut-être de certains praticiens qui n'ont pas mesuré peut-être l'ampleur du mésusage de ce médicament. Il faut faire la part des choses, il faut un peu faire confiance aussi aux études et aux experts, je crois. Et voilà.
C'est des scènes qu'il ne faut pas rater. Hein. C'est la meilleure façon de s'exonérer soi-même de responsabilité, c'est de dire « rien n'est prouvé encore ». Et vous en verrez dans 10 ans qui diront encore « Attendez, moi, j'ai pas vu quelqu'un qui prend un comprimé de Mediator et qui tombe foudroyé, donc j'ai pas de preuves. » Non, c'est une façon de s'abriter soi-même, de pas avoir perçu le problème.
Salut Daniel. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine.
1er décembre 2010.
Ma mère est morte en janvier 2006. Les deux dernières années de sa vie, elle avait de graves problèmes cardiaques. On lui a diagnostiqué une valvulopathie. Les valves du cœur étaient complètement détériorées, et à l'époque, on ne savait pas pourquoi. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. Un an avant sa mort, ma mère a accepté de se faire opérer des valves du cœur. Mais rien n'y a fait, son état s'est lentement dégradé, fatigue, souffle au cœur. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. Ma mère est morte en janvier 2006, elle avait 58 ans. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine, c'était du Mediator. Elle en a pris 3 comprimés par jour pendant 10 ans. L'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, déclare que, selon une étude de la CNAM, le Mediator aurait causé entre 500 et 1000 morts. Cette même agence, l'AFSAPS, a attendu le 30 novembre 2009 pour retirer le Mediator du marché en France, alors que les effets nocifs de la molécule sur les valves cardiaques sont connus depuis 1997.
En effet, le rapport de l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, a décrit comment le laboratoire Servier a délibérément menti et caché pendant près de 30 ans que le Mediator était un anorexigène, c'est-à-dire un coupe-faim. Il faut arrêter le robinet à poison. Bruno Toussaint, qui s'est fait une réputation justement récemment à ce sujet, le directeur de la revue Prescrire, s'inquiète de l'influence croissante des laboratoires sur le médicament et affirme que 1 sur 5 des médicaments mis sur le marché ne devraient pas être autorisés. Au moins 20% des médicaments ne devraient pas être autorisés selon la revue Prescrire. C'est dire si le Mediator n'est pas un cas unique. On continue avec le professeur Even.
Quand on est chercheur en France, un labo peut nous payer pour participer à un colloque comme celui-ci?
Bien sûr, il y a des congrès promotionnels, ça n'a plus rien à voir, organisés par l'industrie pour promouvoir une molécule nouvelle qu'elle veut commercialiser. Alors là, ça lui coûte cher. Ça lui coûte cher parce qu'elle paye le voyage à tout, si c'est la cardio, à tous les cardiologues français. Hein. Mais qu'est-ce que c'est sinon des opérations de promotion commerciale? Bon.
Et ensuite, il y a les rémunérations beaucoup plus importantes d'expertise, enfin
oui.
D'essai, c'est
oui.
Ça. Hein.
Là, il y a deux catégories, là encore, tout est compliqué. Hein. Il y a d'abord des rémunérations qui sont données au service qui fait le travail, pour qu'il puisse fonctionner mieux avec de meilleurs appareils, avec une secrétaire de plus, et que l'État est incapable de financer. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans une unité de recherche, les trois quarts des crédits viennent du secteur privé.
Les trois quarts.
Mais on ne peut pas travailler avec la seule subvention de l'État. C'est impossible. C'est comme ça au degré près dans tous les pays du monde. Mais en France, l'État, c'est 25% en moyenne, avec les variations. Aux États-Unis, c'est 50%. En Angleterre, 50% aussi.
Aux États-Unis, en Angleterre, il y a une participation de l'État plus élevée dans la recherche.
La recherche biologique, oui. Beaucoup plus élevée. Et en France, on n'en met que 10 ou 15%. Le financement de la recherche dans son ensemble, c'est essentiellement dirigé vers ce qui apparaît du prestige cocardier nationaliste à l'État, c'est-à-dire le nucléaire, l'espace, etc., qui ne sont pas d'ailleurs de la recherche. Pour moi, ce n'est pas de la recherche. Hein. C'est de l'ingénierie appliquée qui progresse. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne politique. Et puis il y a d'autre part des rémunérations personnelles qui sont accordées pour les avis qu'ils peuvent donner, les conférences qu'ils peuvent faire, les articles qu'ils peuvent écrire, la diffusion de l'information à laquelle ils peuvent participer. Autrement dit, il y a deux carrières dans la médecine universitaire, celles qui travaillent avec l'industrie pour mettre de nouveaux médicaments sur le marché et ceux qui ensuite jugent impartialement et en dehors de tout intérêt personnel de la validité des découvertes qui ont été faites par les autres. Il faut séparer les juges et les parties. Dans tout, c'est comme ça. C'est un principe de droit qui remonte à plusieurs siècles. Hein. Alors, qui est bafoué tous les jours, en particulier en France. Je voudrais que les produits mis sur le marché soient jugés par d'autres médecins également compétents qui préfèrent ne pas travailler avec l'industrie, mais juger le plus exactement possible la valeur des produits.
Pour être commercialisé, tout médicament fabriqué industriellement, comme le Mediator, doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
LCI.
Les laboratoires déposent un dossier auprès de l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, appelée autrefois l'Agence du médicament.
16 novembre 2010.
L'AFSAPS est chargée d'évaluer ce produit, de le contrôler et de l'inspecter. Elle doit également exercer une mission de vigilance sanitaire. Or, ce sont ces mêmes laboratoires qui financent majoritairement l'AFSAPS, mais pas seulement.
Allô ?
Monsieur Witkock.
Oui.
Vous travaillez pour des laboratoires pharmaceutiques.
Je fais des essais thérapeutiques à la demande de mon administration, de l'assistance publique.
Vous avez combien de contrats avec les laboratoires pharmaceutiques ?
À l'heure actuelle, je dois avoir 2 ou 3 contrats avec l'industrie.
Est-ce qu'on peut connaître justement la hauteur des rémunérations ?
Aucune idée. Je ne connais pas les chiffres.
Vous avez bien vu qu'en ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché, il y a eu un problème. On se rend compte que
le fait d'être rémunéré par les laboratoires pharmaceutiques ne rend pas toute indépendance à l'expert. On a vu évidemment le cas actuel du médiateur. Vous présidez cette commission, est-ce que là il n'y a pas eu une erreur ?
Vous voulez dire sur le... Non, je ne discuterai pas du médiateur, parce que comme il y a des actions au jour d'aujourd'hui publiques et politiques, je ne vais pas m'exprimer là-dessus.
Oui, mais vous présidez la commission d'autorisation de mise sur le marché.
Oui.
Donc en tant que président de cette commission...
Moi, je suis responsable, je coordonne cette commission depuis 6 ans, donc c'est la partie finale. Non, si vous souhaitez discuter de ça, à ce moment-là, on arrête la discussion, d'ailleurs, il va falloir qu'on arrive au terme quand même. Si vous voulez avoir la forme d'un pensée, je pense avoir la conscience tranquille, mais si je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, donc je ne peux pas aller plus loin. Voilà, au revoir.
Au revoir.
Ils sont pas bons, hein, les journalistes de là-bas, si j'y suis, avec leurs questions. Ça marche jamais, hein. Ou alors, enfin, c'est curieux, quand même. Il y a quelque chose, là... Il y a quelque chose de différent entre ces journalistes, ça et là, et puis les vrais journalistes. Il faudrait qu'on voit ça d'un peu plus près. Pour l'instant, on va essayer de se tourner vers quelqu'un d'autre. L'auteur d'un ouvrage intitulé « Lobbying et santé », un certain Roger Langlais, qui est auteur... et journaliste. Roger Langlais.
Il y a toujours eu une relative porosité en France, comme dans plein de pays, entre l'État, on va dire, et le monde du privé. Mais là, ce qui est évident, c'est que ce pantouflage, en fait, ce va-et-vient entre le privé et le public, s'est accéléré énormément au cours des dernières années, au point d'ailleurs que, à peine élu, hein, quand même, Nicolas Sarkozy a fait en sorte que soit réduite la durée interdisant justement le pantouflage après avoir occupé une position importante au sein de l'administration, au sein de l'État. Il était donc interdit pendant 5 ans de rejoindre une direction d'entreprise intervenant sur le secteur où on avait eu des responsabilités publiques. Ce qui fait que, par exemple, les Américains, à propos de ça, parlent non pas de pantouflage, mais de porte tournante. C'est-à-dire qu'on passe du privé au public et du public au privé, hein, sans arrêt. Tout simplement, ça risque de donner, ce qui est déjà largement le cas d'ailleurs, mais complètement le contrôle aux grandes industries privées sur les décisions publiques.
C'est un nouveau sirop contre la cellulite. On n'a plus de saison, toujours la sinusite. Il savait débiter si bien ses platitudes. Un garçon bien poli, ayant fait des études, car l'on n'a rien sans rien. Sa mère en était fière, mon fils est pharmacien, rue de la Croix en hiver. Croix verte dans la nuit, c'est la romance, de belles pharmacies où l'on dépense. Les fortunes ont caché et en gélules pour garder la santé de ces lots, de ces lots, de ces lots, de ces lots, de ces globules. Croix verte au carrefour, clignote et danse. Il lit avec amour ses ordonnances et la publicité dans sa vitrine vante les qualités de l'aspi, de l'aspi, de l'aspi, de l'aspi, de l'aspirine.
À l'Assemblée nationale, nous avons rendez-vous avec Sébastien Potdevin, qui est assistant parlementaire de Catherine Lemorton. Et nous devons assister justement à une réunion entre un lobbyiste et Sébastien.
Voilà, alors il y a quand même parmi ce monde politique, ces élus, ces assistants parlementaires, des gens qui ont un certain sens minimum de l'intérêt commun, qui ont un petit peu le sens de la morale et qui essaient, avec les moyens qui sont les leurs, de lutter contre la puissance de ces lobbies et leur génie de l'insinuation. Voilà une rencontre avec justement l'un de ces lobbyistes.
Bonjour.
Et bonjour.
Ça va ?
Ça va et vous ?
Ben oui, impeccable.
Vous ne recevez pas le lobbyiste ? Vous n'allez pas le voir, Catherine Morton ?
Non, je ne vais pas voir le lobbyiste. Je ne les vois pas en dehors des réunions formelles dans l'Assemblée nationale, dans les salles d'audition, où là, je n'ai pas besoin d'être autour d'un café ou je ne sais quoi pour bien les entendre. Mais une salle d'audition très spartiate me va très bien.
Sébastien.
Oui.
Donc là, on va même sortir de votre bureau, parce que ça se passera pas dans votre bureau.
Il y a une petite cafétéria en bas, et on va aller avec lui là-bas.
Et voilà. Comment ça s'est passé pour qu'il rentre en contact avec vous? Il vous a appelé, enfin...
Il a envoyé un courriel, je crois, sur l'adresse de Mme Lemorton, afin de la rencontrer. C'est le type de message qu'on reçoit habituellement, à savoir « mon entreprise est absolument mise de côté dans tous les avantages que l'on peut avoir. Il y a des risques, notamment économiques, importants. Il faut absolument faire quelque chose, etc. etc. »
D'accord. On va y aller.
Let's go. Allez.
D'abord, je me présente, je vais vous dire ce que je fais. Bon, je viens de l'industrie pharma, hein, vous avez compris ça. J'ai tout fait dans l'industrie pharma. J'ai commencé visiteur médical, j'ai terminé directeur d'opération. Et puis un jour, j'ai créé ma société. L'idée, c'est le bon usage du médicament. Avec des idées un peu perverses, puisque c'est le bon usage du médicament destiné à mieux vendre les produits. Et donc, l'idée, c'était de dire, on va utiliser le pharmacien comme relais de l'information. J'étais en gros le premier en France à dire au labo, attention, on va arrêter d'aller voir les médecins pour leur expliquer à quoi ça sert, puisque de toute façon, ils s'en foutent. En gros, c'est ça. Hein. Et puis, parce que le médecin, on va le voir aller 3 fois dans l'année, 4 fois dans l'année au mieux.
Ouais.
Le pharmacien, on est entre 9 et 10 fois de visites pharmaceutiques dans l'année. Et ce relais de l'information, donc je l'ai construit en envoyant des gens qui étaient visiteurs médicaux, mais auxquels je faisais faire un centre de tâches, des formations qui duraient 1 heure par session de 3-4 personnes. On était loin de la visite médicale. La visite médicale, c'est 9 minutes. Là, on passe à 1 heure, parfois 1 heure et demie. On reste 2 à 3 heures dans une officine. C'est extrêmement long. Et toujours axé sur, non pas vendre mieux, mais mieux consommer. En gros, un antibiotique, je ne m'en occupe pas. Ça ne m'intéresse pas. 7 jours d'antibiotique, vous n'avez pas le temps d'intervenir sur le malade. Un antidépresseur, ça m'intéresse. Le mec, il vient au moins une fois par mois chercher sa boîte. Donc, dans la dépression, on sait qu'il faut 6 mois de traitement, plus 6 mois de traitement dégressif. Ok, ça, on le sait. Sauf que la moyenne, c'est 3 mois et demi à 4 mois. À chaque fois, il va entendre, attention, vous devez prendre votre traitement pendant tant de temps, et etc. Donc, il va l'entendre et on va le lui rappeler. Et on s'aperçoit que tout ça, ça marche. Le gain économique, il est très simple. Quand vous gagnez un mois de traitement, ça, sur des produits qui coûtent entre 20 et 100 000 euros par an, le meilleur exemple que j'ai là-dessus, c'est la dépression. En un passage chez le pharmacien, on a gagné 25% de temps de consommation.
Et là, vous êtes avec qui? Vous travaillez avec qui à peu près comme là vous?
Aujourd'hui, je travaille avec Bayer, je travaille avec Ipsen, je travaille pratiquement avec tout le monde. Donc voilà, donc ma démarche, moi, c'était de dire, bon, bah, je cherche les pistes d'accès.
D'accord.
Pour faire de mon business commercial un business institutionnel.
D'accord.
Grosso modo, l'idée, c'est d'institutionnaliser ce que vous faites. Ça veut dire faire en sorte que la loi rende ça quasi obligatoire.
C'est un peu ça. Et tant qu'à faire, si on peut dire c'est le monsieur là-bas qui s'en occupe, ça me plairait beaucoup.
Là, on vient de rentrer, Sébastien, dans votre bureau.
Il a compris une chose, c'est que la stratégie des laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui évoluait. Ils ont une nouvelle stratégie qui n'est plus de passer par les médecins, mais d'essayer de toucher directement le patient. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, effectivement, de la responsabilité du patient, qu'il faut lui apprendre à mieux gérer ses traitements, etc. etc. C'est surtout pour pouvoir le toucher directement.
Ouf. Voilà. Ah bah alors là, hop. Là vous me sortez l'ensemble des invitations que vous avez.
Voilà, alors... Sanofi qui avait sorti une brochure expliquant toute son implication dans le territoire qui accueille son siège social. Voilà. C'est à la fois très facile et c'est en même temps très efficace. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit mais écoutez, monsieur, madame l'élu, c'est très bien, mais si vous ne vous aidez pas notre entreprise à rester sur le territoire, nous allons partir avec les 1000 ou les 1200 employés de ce siège social. Donc forcément, beaucoup d'élus répondent par bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ça, c'est une pression. La pression à la délocalisation est une pression extrêmement habituelle de la part de tous les laboratoires pharmaceutiques, notamment, qui utilisent ce lobbying qu'on peut appeler un lobbying agressif. Ça me fait penser à cette interview d'un ancien dirigeant de TF1 qui parlait du temps de cerveau disponible. Eh bien, les lobbyistes essayent justement de créer des espaces de cerveau disponibles dans la tête des parlementaires, justement pour qu'ils puissent le plus souvent possible se souvenir qu'il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main parce que ceci ou cela. Voilà.
On ne pourra pas dire que là-bas, si j'y suis, ne vous a pas aidé à comprendre où sont les bons et où sont les méchants. Voilà un bon. Roger Langlais, on l'a entendu à plusieurs reprises, je rappelle qu'il est journaliste d'investigation et qu'il est l'auteur de Lobbying et Santé. On voulait lui poser des questions sur une conclusion provisoire à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis aussi, est-ce qu'on pourrait discuter, très peu de temps, du reste du monde, face à la santé ?
Il faut absolument encadrer et limiter le lobbying, d'en contrôler les activités au plus près, de façon à remettre, disons, la démocratie sur ses pieds et à empêcher les collusions qui sont en fait des relations de corruption entre les élus ou les membres du gouvernement et les grandes industries. C'est vrai que pour les ministères, par exemple, il faut absolument faire le ménage. Il n'est pas normal qu'il y ait un tel pantouflage, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'industrie pharmaceutique, en l'occurrence, et qui repartiront ensuite dans l'industrie pharmaceutique après avoir pris des décisions qui concernent ces industries. C'est-à-dire que d'un côté, on a un discours public, on gère les crises sanitaires comme des crises de communication. Et par derrière, on continue à développer des marchés et une législation favorable à l'industrie pharmaceutique. Et personne n'est là pour défendre l'intérêt général. Il va bien falloir appeler un chat et désigner un certain nombre d'activités du lobbying qui relèvent bel et bien du trafic d'influence et de la corruption.
Là, on a parlé du problème du Mediator en France, de la santé en France. Et comment ça se passe dans les autres pays ? J'allais dire pour les pays qui sont moins rentables.
Alors, pour les pays les moins rentables, alors eux, ils ont droit au pire, on va dire. Non seulement ils n'ont pas les médicaments des pays riches, mais les labos qui mettent au point des médicaments pour les pays riches les expérimentent dans ces pays pauvres où la réglementation, la législation autour des protocoles d'expérimentation est très faible. Par exemple, en Inde aujourd'hui ou en Afrique, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Autrement dit, ils ont des cobayes humains qu'ils payent beaucoup moins cher. Ils peuvent biaiser beaucoup plus facilement les études et mettre sur le marché finalement des médicaments avec des dossiers qui ont été ficelés dans des conditions extrêmement douteuses. Donc en gros, on expérimente sur les pauvres des médicaments qui vont servir uniquement aux riches. C'est au point d'ailleurs que la Commission européenne aujourd'hui commence à s'en alarmer et prépare normalement un encadrement pour les empêcher de continuer à mettre au point ces médicaments dans des conditions complètement opaques et contestables.
Il y a une expression qui dit gober les médicaments, gober les médocs. Merci à tous. C'était Doré la pilule, une nouvelle version du reportage de Pascal Pascariello de février 2011 sur l'industrie pharmaceutique. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et sur notre page Facebook, vous pouvez également nous retrouver, je vous rappelle, les 26 et 27 mai, la semaine prochaine, le grand rassemblement annuel sur le plateau des Glières, organisé par CRHA, citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui, avec beaucoup de monde, du beau monde, tout le samedi après-midi, des débats de toutes sortes, et le soir, on se retrouvera le repère des repères de Là-bas si j'y suis, et une soirée avec des invités. À la technique aujourd'hui, Alice Berger et Alain Duclos, Bertrand Chemeton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touyès. Grégory Salomonovitch, quant à lui, attend vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Demain, on devrait se pencher sur, si tout va bien, se pencher sur l'histoire du Front populaire. Il y a un écho entre ce qui se passe aujourd'hui et le Front populaire de 1936. On y reviendra demain.
D'ici là, d'abord, réclame.
Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ces dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie.
Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France 2.
J'ai 18 ans, là, j'ai le droit de choisir ce que je veux faire, non?
Vous croyez connaître vos ados?
C'est quoi ce style, je me la joue jeune, là? À ton âge, ça fait pitié.
T'as juste commencé ta ménopause.
Vous croyez connaître vos parents?
Et si on allait prendre une douche, toi et moi?
Quoi maintenant? Mais le dîner?
Oh, ça va, ça peut attendre.
La série Clash continue ce soir sur France 2.
France Inter, partenaire du Festival Saint-Malo, étonnant voyageur du 26 au 28 mai. Pour appréhender un 21e siècle qui bouleverse nos certitudes, le Festival international du livre et du film nous plonge dans l'effervescence d'une époque de crise et de révolte. Autour de rencontres, de débats, d'expos et de projections, plus de 250 écrivains, artistes, penseurs et cinéastes de 43 pays nous donnent à lire, à voir et à entendre le monde à venir. Et retrouvez Cosmopolitaine de Paula Jacques en direct et en public de Saint-Malo le dimanche 27 mai à partir de 14h. Renseignements sur franceinter.fr.
France Inter présente Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Film d'ouverture en compétition au Festival de Cannes.
Dear Suzy, dear Sam.
Été 65, sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, Suzy et Sam, 12 ans, tombent amoureux.
One, where?
Ils concluent un pacte secret et s'enfuient ensemble. La communauté des adultes décide alors de partir à leur recherche. Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton. Actuellement au cinéma. Retrouvez Wes Anderson aujourd'hui dans Downtown à 18h20.
Pile poil 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis des infos. Laetitia Gaillet, salut.
Visiblement, tout n'est pas si simple dans la composition du gouvernement. Après avoir donné rendez-vous à 16h pour son annonce, l'Élysée ne donne plus cet après-midi d'heure. Ce sera vraisemblablement en fin de journée. L'annonce sera donc faite sur le perron de l'Élysée par Pierre-René Lema, le secrétaire général. On sait déjà que Martine Aubry ne fera pas partie du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Les Grecs retourneront aux urnes le 17 juin prochain. Au lendemain des législatives, les partis n'ont pas réussi à s'entendre sur la formation d'un gouvernement de coalition. Les élections législatives auront donc lieu dans un mois, mais les partis qui tireront le mieux leur épingle du jeu sont prévenus. Les engagements pris par la Grèce en échange du deuxième plan d'aide ne peuvent être modifiés, selon José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. Pour Mario Draghi, le patron de la Banque centrale européenne, la Grèce doit rester dans la zone euro. La situation grecque continue d'inquiéter aujourd'hui les marchés. Paris a renoué avec le vert en tout début d'après-midi, ce qui n'est pas le cas de Londres et de la bourse de Francfort. En revanche, Wall Street s'en tire mieux. La bourse de New York vient d'ouvrir en hausse. À propos de la crise de la dette et de la sortie de la zone euro, cet après-midi, le Premier ministre britannique David Cameron a lancé de son côté un appel à la Chambre des communes. Il a appelé les dirigeants européens à résoudre la crise de la dette au plus vite. David Cameron met dans la foulée en garde contre un possible éclatement de la zone euro. Si elle veut continuer telle qu'elle est, alors dit David Cameron, alors l'Europe doit construire un véritable pare-feu contre la crise. Plusieurs personnes ont été blessées aujourd'hui à Tripoli, au Liban. Ça s'est passé lors d'affrontements entre partisans de pro et de Bachar el-Assad, des partisans de Bachar el-Assad, des opposants au président syrien. Sur le terrain en Syrie, on apprend aujourd'hui que 15 civils ont été sommairement exécutés, dit-on, par les forces du régime syrien la nuit dernière à Homs. Retour en France, des déménageurs ont commencé aujourd'hui à vider la maison de la famille Dupont de Ligonnès à Nantes. Les meubles et les effets personnels doivent être portés à une déchetterie. Les propriétaires de la maison souhaitent en fait a priori vendre la maison. La femme et les quatre enfants de Xavier Dupont de Ligonnès ont été assassinés en 2011. Xavier Dupont de Ligonnès est lui toujours introuvable. C'est officiel, David Beckham fera partie de la délégation qui apportera la flamme olympique de Grèce à Londres. Allumée la semaine dernière, les premiers relais débuteront en fait ce week-end. 12 875 km à parcourir jusqu'à la cérémonie d'ouverture le 27 juillet prochain à Londres. L'ancienne star de Manchester United et du Real Madrid participera donc demain à une cérémonie de remise de la flamme dans l'ancien stade olympique d'Athènes. Vous écoutez France Inter, 16h03.
À votre écoute,
coûte que coûte.
Bonjour Philippe.
Bonjour Margaret.
Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu.
Nous sommes là pour vous.
Pour répondre à vos questionnements.
Vos doutes.
Mais aussi vos angoisses.
Service public, attention,
oui là.
Attention.
Ouh là là.
Hein, d'accord. Laissons les mots, hein, M-O-T-S, pour vos mots, M-A-U-X. À votre écoute, coûte que coûte.
Ah oui.
Du lundi au vendredi à 12h20 sur France Inter.
À demain.
France Inter. La différence.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est
bonjour
à
bonjour Laetitia. Ben oui, on est très content. On devait avoir le nom des ministres et puis finalement, ben on va faire un peu de musique en attendant.
Et un peu de douceur dans ce monde de brut.
On va parler de violoncelle et de Beauvais. Ça va très bien ensemble, figurez-vous. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Et oui, on attendait le nom des ministres. Et oui, on nous a dit, il n'y aura peut-être pas d'émission jusqu'à l'admi. Mais on est très impatients. Ce sera pour plus tard, bien sûr. Nous sommes très, très tous passionnés par ce qui va se passer. Et particulièrement ici par la nomination du ou de la ministre de la Culture, de la Communication et autres centres d'intérêt afférents. En attendant, je vous signale la venue d'Emmanuelle Bertrand, programmée à 16h30, remarquable violoncelliste et qui est maintenant directrice artistique du Festival de violoncelle de Beauvais qui commencera le 1er juin et c'est vraiment un très très bel événement. Et en attendant, bien sûr, il y a Cannes ce soir, la montée des marches, etc., etc. Puis des musiques qui nous ont marqués. Quant à moi, je suis toujours très très amoureux de la musique pour le mépris de Jean-Luc Godard, notamment la scène de Camille. Ça a été écrit par Georges Delerue, bien sûr, très inspiré, c'est certain, par Jean-Sébastien Bach. Mais c'est beau de se souvenir du passé pour aller vers l'avenir. Thank you. Camille, la belle Brigitte Bardot, dans Le Mépris, musique de Georges Delerue, Le Mépris de Jean-Luc Godard, bien sûr, musique interprétée par Georges Delerue à la tête d'un ensemble non précisé. Les requins de studio, comme on dit, familièrement. Et quelquefois, la musique est un personnage à part entière dans un film, comme dans le beaucoup plus récent Lac des Cygnes et le Black Swan, ce fameux film qui montre la volonté incroyable d'une danseuse qui veut arriver jusqu'au très fond de sa personnalité pour pouvoir exister auprès de son redoutable coach, comme on dit aussi dans le sport aujourd'hui, metteur en scène, chorégraphe. Et c'est une très belle musique, ce Lac des Cygnes qui inonde entièrement ou presque que nos esprits, quand on pense à ce film, on pense à la mise en scène quelquefois très dure et très prenante de Darren Aronofsky et ben c'est beau, c'est tout simplement magnifique et c'est là dirigé par le grand Seiji Ozawa avec l'Orchestre Symphonique de Boston.